Après une certaine accalmie plusieurs années durant, l'Afrique renoue finalement avec les coups d'État. En l'espace de 3 ans, les pouvoirs de 4 pays de la sous-région ouest-africaine ont été renversés. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée sont depuis dirigés par des juntes militaires. Faut-il alors craindre une remise en cause de la démocratie dans la sous-région ? Quelle démocratie d'ailleurs dans le contexte sous-régional actuel ? Studio Yafa pose le débat cette semaine au lendemain de la commémoration de la Journée mondiale de la démocratie. Pour ces échanges, nous recevons 3 invités de profils différents. Le docteur Jocelyne Vokouma, anthropologue, maître de recherche à l'Institut des sciences des sociétés au Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST. Le deuxième invité, également sur ce plateau, est Aziz Diallo, gestionnaire de programme, homme politique, ancien député maire de la ville de Douri dans la région du Sahel. Et notre troisième invité est Simon-Pierre Douamba, chargé de suivi et évaluation au CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique. Bonjour, merci à tous pour la présence. Place au débat.
Il y a débat.
Docteur Jocelyne Vokouma, déjà pour les causes de ces coups d'État, c'est la crise sécuritaire qui est évoquée par les pouvoirs militaires. Que pensez-vous de ces raisons évoquées ?
D'abord, au-delà de la crise sécuritaire, souvenez-vous quand même qu'il y a une crise de gouvernance aussi, de façon sous-jacente à cette crise sécuritaire, qui fait que les populations accouplées à la vie chère, les populations en tout cas criaient un ras-le-bol. Et sans doute que ces austérités de vie ont dû toucher les casernes, au point qu'il y a eu des révoltes pour nous ramener dans des états d'exception. Voilà, au-delà de ces raisons, disons que l'ancrage de la démocratie en tant que telle ne s'est pas véritablement consolidé en Afrique. Voilà, et on n'a pas su aussi donner aux institutions la place qui leur revient. Donc il y a souvent des interférences.
Pour vous, la question sécuritaire n'est pas la principale raison qui a entraîné ces renversements de...
Elle est une forme de... une manière de corroborer tous ces processus parce que la gouvernance pratiquement est au cœur de tout. Les petites erreurs que nous faisons tous les jours en tant que responsables à tout niveau finissent par se gangréner et créer des contre-repères de gouvernance comme la corruption. Et la vie au-dessus des moyens, les abus des biens sociaux, des biens publics, etc. La redéfinition de l'échiquier politique doit se faire pour que chacun sache à tout niveau sa place et son rôle.
Et nous allons y revenir au cours de cette émission. Mais en attendant, Aziz Diallo, vous qui êtes ancien député maire de la ville de Douri, Douri qui est dans la région du Sahel, une zone en proie à l'insécurité, est-ce que vous partagez ce que le docteur Jocelyne Vokouma vient de dire ?
Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que Dr Vokouma a dit. Je tiendrai à vous remercier pour l'invitation. Je ne fais pas de lien entre la sécurité et la démocratie, mais plutôt le lien entre la sécurité et la gouvernance. Comme elle a dit, cette situation de sécurité n'est qu'une résultante d'une gouvernance qui a pataugé, disons, pendant quelques années. Nous ne faisons que récolter les fruits aujourd'hui de tout ce qu'il y a eu comme manquement au niveau de la gouvernance. La démocratie permet, donne la liberté au peuple de choisir, aux populations de choisir leurs dirigeants, leurs gouvernants, et ainsi de suite. Mais les principes de la bonne gouvernance aussi doivent accompagner la démocratie. Donc si vous avez une démocratie sans une bonne gouvernance, mais c'est difficile après de faire le procès de la démocratie. C'est plutôt le procès de la gouvernance qu'il faille lieu de faire en ce moment.
Est-ce que c'est ce qui explique un peu aussi le fait que la population ait bien accueilli ces différents coups d'État survenus ?
Oui, je veux dire, il y a une situation quand même d'inquiétude, de morosité, de pauvreté, de lassitude. C'est dans ce contexte-là que les coups d'État se sont déroulés pour la plupart. Et effectivement, quand vous regardez surtout la situation sécuritaire, je ne justifie pas un coup d'État. Il faut que je sois clair là-dessus. Je donne les éléments qui expliquent, mais pour moi, ces éléments-là ne sont pas suffisants pour justifier un coup d'État. Donc effectivement, nous étions dans une situation où l'insécurité était grandissante. Les populations un peu est en train à la recherche d'un messie parce que la situation ne faisait que se détériorer année après année. Nous avons tous vu la spirale, comment elle s'est déferlée depuis 2015 jusqu'à 2020 dans notre pays. Il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de ralentissement. Les choses sont allées. Donc imaginez un peu les populations, bien sûr, face au désespoir. Vous avez l'impression que le Messie peut venir de nulle part et de partout. Et effectivement, donc quand il y a le coup d'État, en fait, c'est l'espoir qui se reporte sur ce coup d'État. C'est l'espoir de voir des lendemains meilleurs.
L'espoir qui se reporte sur le coup d'État, Pierre Domba, est-ce que c'est la même analyse que vous faites par rapport à cette situation où les populations ont accueilli ces différents coups d'État survenus, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, ainsi qu'en Guinée?
Oui, exactement. Je pense que les uns les autres sont revenus un peu sur les causes. Quand les militaires arrivent au pouvoir, hein, c'est d'abord la question sécuritaire et dans d'autres pays, c'est le fait qu'il y ait eu des coups d'État anticonstitutionnels. Donc, ça veut dire qu'une mauvaise pratique de la démocratie. À côté de cela, il y avait quand même le contexte international où on sentait que de plus en plus la guerre entre les puissances se sont déportées sous nos cieux où ceux-là qui sont peut-être favorables à la démocratie appartiennent à des pays proches de l'Occident ou des États-Unis. Et d'un autre côté, quand même, là, ceux qui réclament les coups d'État appartiennent à la Russie. En fait. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà ce contexte de positionnement, ce qui a amené quand même les uns les autres à rechercher. Et à côté de cela, sur la question sécuritaire, comme disait un peu Honorable, les citoyens étaient quand même dans un sentiment de faiblesse, d'abandon. Et ils cherchaient un messie. Et par ce messie-là, celui-là qui est capable d'apporter la sécurité et celui-là qui est capable également d'apporter de la rigueur, surtout dans le cas de Burkina Faso, des gens trouvaient qu'il y avait quand même du laxisme dans la gestion. Donc on cherchait un homme qui soit capable d'apporter la sécurité, un homme qui soit capable d'apporter la rigueur. Et bon, le militaire, c'est le profil type que les uns les autres recherchaient. Donc c'est ça qui a favorisé l'acceptation de ces coups d'État, sans oublier également qu'il y a cet appétit de nos hommes, de nos militaires qui n'ont jamais quitté l'arène politique, même si on ne les voit pas dans les partis politiques, ce sont des acteurs qui sont accrochés à des hommes politiques où, bon, ils attendaient simplement les moments favorables pour accéder au pouvoir en utilisant certainement l'incompréhension ou bien les justifications profondes de ces citoyens-là qui attendent vraiment un besoin sécuritaire où se disent, bon, allons à la guerre, il nous faut des hommes de guerre. Donc, je pense que c'est dans tout ce contexte-là que, bon, les militaires ont profité, voilà, pour venir aux affaires.
Est-ce que, docteur Jocelyne Vokouman, des coups d'État sont acceptables dans des jeunes démocraties comme au Burkina, au Mali, au Niger ou en Guinée?
Je crois plutôt que même c'est la jeunesse même de ces États qui donne lieu à ces coups d'État, parce que dans les démocraties consolidées, c'est des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, comment on fait pour que, comme je l'ai dit, chaque institution soit capable de jouer son rôle à sa place? C'est le dilemme dans lequel nous sommes, de telle sorte que, est-ce que ça ne demande pas un peu... Il y a un an, avec le CGT, on discutait du contrat social. Est-ce que face à ce contexte où chacun veut comprendre pourquoi l'armée vient au pouvoir, repart à la caserne, pourquoi les civils ne prennent pas leurs responsabilités, etc., ou bien les prennent mal, est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas temps que tous les boucs s'asseyent de part et d'autre pour discuter? Parce que c'est une question de ce sur quoi on s'accorde pour avancer ensemble. Si même l'héritage colonial nous donne à voir que c'est comme ça, est-ce que nous, on ne peut pas définir notre voie pour faire en sorte que tout le monde donne sa partition?
Parce que vous parlez de voie, vous parlez forcément d'une démocratie à l'africaine, par exemple?
Pas forcément. Bon, démocratie adaptée au contexte africain.
Est-ce que, par rapport à ce que le docteur Jocelyne Vokouman vient de dire, s'asseoir, essayer de redéfinir un peu les choses, est-ce que c'est l'idée que vous partagez également?
Bon, s'asseoir et discuter, c'est toujours très important, c'est toujours très bien dans une société. Mais pour moi, la question de la démocratie et les coups d'État, c'est purement antagonique. C'est l'un ou l'autre. Les coups d'État, pour moi, ça résulte... C'est une contre-démocratie, c'est une anti, tout ce qui est contre tout ce qui est prescrit dans la démocratie. nous sommes quand même dans une société qui est organisée, nous avons des textes, chacun a son rôle et ses responsabilités. L'armée a ses responsabilités, mais quand vous avez ces immixtions de l'armée dans la vie publique, c'est ça qui déstabilise un peu, que ce soit les institutions, le pays en entier. Cela dit, personne n'empêche aux militaires d'avoir des ambitions politiques, mais les textes sont clairs. S'il a des ambitions, il démissionne de l'armée et personne ne peut l'empêcher après. S'il veut devenir politicien ou il veut devenir prêtre, il fait ce qu'il veut. Mais c'est quand il y a ces mélanges de genres-là qui déstabilisent les institutions. Les exemples, ça court les routes aussi aujourd'hui. Donc moi, je pense que... Une notion est assez simple. La démocratie en elle-même donne des moyens de contre-pouvoir, de contrôle du pouvoir. Et le problème que nous avons, c'est l'enracinement de la démocratie. Nous avons une démocratie qui est belle sur papier, mais dans la mise en œuvre de cette démocratie, c'est là que nous avons péché. Donc le problème n'est pas la démocratie elle-même, mais c'est ce que nous-mêmes nous avons fait de la démocratie qui cause des problèmes. Mais cela ne doit pas justifier l'immixtion de l'armée dans l'interruption de la démocratie par l'armée, parce que cela remet tous les équilibres en cause.
Simon-Pierre Domba, votre réaction par rapport à...
Quand les militaires arrivent au pouvoir, ils accusent par exemple le pouvoir civil, le pouvoir démocratique, de ne pas apporter la sécurité, peut-être sur des questions de gouvernance. Et aujourd'hui, si on doit faire un bilan entre les civils au pouvoir et les militaires au pouvoir, est-ce que les questions de corruption qu'on a chez les militaires aujourd'hui, un autre coup d'État les civils doivent venir faire un coup d'État pour reprendre leur pouvoir. Est-ce qu'on doit aller dans ce principe-là? On n'utilise pas les coups d'État comme mode d'accession au pouvoir. C'est pour ça que nos textes sont bien établis. Et là, j'ai un peu aimé, même quand vous avez parlé de la démocratie à l'africaine, je ne partage pas cet avis parce que même dans nos sociétés, chacun a son rôle. Vous verrez, par exemple, dans une communauté que peut-être on va me... moi aussi, que je connais, par exemple, celui qui s'occupe des armes reste à sa place. Si le roi déconne, il y a tout un conseil qui trouve des mécanismes, soit pour sanctionner le roi. Donc, quelqu'un d'autre ne reprend pas la place. Donc, en Afrique, on ne retrouve pas ça. Peut-être on va aller fouiller les coups d'État au niveau de l'Occident. Aujourd'hui, c'est qu'on se dise, est-ce que notre démocratie permet qu'on ait des mécanismes? Au cas où, par exemple, un chef d'État... Et faute, avec des seuils, on peut quand même engager sa responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce qui est arrivé sous le régime démocratique, est-ce que c'est parce que le président a refusé de mettre en œuvre des politiques que les militaires ont demandé de faire? Est-ce qu'il a eu à trahir? Donc, c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas aujourd'hui épiloguer parce qu'on n'a pas tous les éléments en fait.
Est-ce qu'on a un problème avec la démocratie à l'heure actuelle dans nos pays comme le Burkina, la Guinée?
Exactement. On a un problème parce que c'est la pratique de cette démocratie-là qui pose problème, en fait. Ni les acteurs civils, encore moins les acteurs militaires, ne pratiquent la démocratie. Parce que si on part sur certains principes, des questions de transparence, des questions de participation, des questions de bonne gouvernance, on trouve les mêmes tares aussi bien dans les régimes civils que dans les régimes militaires. Aujourd'hui, c'est qu'on s'asseye et qu'on revoit ces principes-là. Et pour ne pas quand même mettre comme en contradiction entre bonne gouvernance ou bien en contradiction entre sécurité et démocratie. Voilà, c'est comme s'il faut être dans un régime militaire pour avoir la sécurité ou la démocratie. Donc il y a, une question fondamentale.
Docteur Jocelyne Bokuma qui sourit, qui veut réagir.
Oui. Moi, je suis anthropologue, hein. J'insiste à le dire parce que c'est l'étude de l'homme en société. De tout ce qui est dit là, on a l'impression qu'on fait tout, on se dit tout, sauf la vérité.
Et quelle est cette vérité?
C'est repenser la société telle qu'elle est configurée. Les gens ont mis du temps d'abord avant d'avouer que ce qu'on appelle constitution, qu'il faut respecter, c'est un pur produit calqué d'une constitution d'un autre contexte. Donc la nécessité de repenser, vous allez voir, il y a des mouvements aussi de la société civile qui parlent de refonder l'État. On est arrivé à après 60 ans, c'est comme si l'architecture politique ne colle plus avec la réalité de la société. Et il faut revoir ça.
Alors, Aziz Diallo,
oui. Quand vous dites les réalités africaines, là, il faut lutter contre ce mythe-là qui ferait croire que les Africains ne sont pas compatibles à la démocratie. Moi, je m'inscris en faux sur ces questions-là. Parce que j'ai quelques chiffres. Les pays qui sont classés dans le monde en matière d'indicateurs sur la démocratie, vous avez des pays africains qui sont bien classés. Vous avez l'île Maurice qui est 21e mondial 867. Vous avez le Botswana, qui est 32e. Vous avez le Ghana à côté, qui est 63e, 867. Et les derniers pays au monde ne sont même pas africains. Vous avez l'Afghanistan, la Birmanie, la Corée du Nord, c'est les bons derniers. Non, la démocratie n'est pas incompatible avec ce que
Mais
nous avons.
Mais qu'est-ce qui ne marche pas finalement pour
non,
que...
non, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'enracinement de la démocratie. Parce que vous voyez un peu, en général, quand on veut apprécier la démocratie, on regarde les principes, oui, les élections transparentes, ces méthodes de dévolution du pouvoir, ainsi de suite. Mais nous tous, nous voyons comment les élections se passent dans notre pays. On voit les limites de la démocratie à ce niveau. Vous avez vu les rapports sur les dernières élections où on parlait du poids du dieu argent dans la conduite des élections et tout ça. Ça, c'est parce que c'est ce que nous-mêmes, nous avons fait de cette démocratie. Mais dans d'autres démocraties ailleurs, vous n'avez pas toute la latitude de faire ce que vous voulez comme on le fait ici. Même dans les plus grandes démocraties, même aux États-Unis, regardons seulement la question des financements des campagnes électorales. Même aux États-Unis, vous avez un plafonnement des financements privés et une transparence, une exigence de transparence. Mais dans notre pays, je peux aller trouver une société privée, prendre 5 milliards, 10 milliards, leur promettre tout ce que je veux comme marché, venir le mettre dans ma campagne électorale, mais personne ne va me demander de rendre des comptes. Ça, ce sont des lacunes. Ça, c'est un exemple que je donne pour dire ce que nous-mêmes nous avons fait de la démocratie. Mais la démocratie ailleurs, il y a des textes qui encadrent tout cela, qui disent que si tu reçois un financement privé, tu es obligé de le déclarer. Et voilà le maximum que tu peux recevoir. Et à la fin, tu fais un rapport, tu montres tout en toute transparence. Et quand tu ne le fais pas, mais tu te retrouves en prison. Ça se voit. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme affaire dans d'autres pays que je ne citerai pas, mais c'est des choses qui ont fait quand même le sugar à la peste. Donc le problème, c'est pas la démocratie, c'est ce que nous avons fait de la démocratie. La démocratie nous permet d'encadrer tout cela, de gouverner tout cela pour qu'il y ait un système qui lutte contre la corruption, tout ce qu'il y a comme mauvaise pratique de la gouvernance, tout est clair. Mais nous, on s'est juste arrêté à l'étape la plus simple, c'est aller de se faire élire à tout prix, aller exploiter un peu les vulnérabilités des populations, avoir beaucoup de voix, c'est s'asseoir, et puis après ça, on fait ce qu'on veut pendant 5 ans.
Alors, Simon-Pierre Domba, est-ce que, au regard de ce qu'il vient de dire, la démocratie se résume forcément à des élections uniquement ?
Oui, c'est un peu la fausse idée qu'on a. Nous avons travaillé sur la question avec des enquêtes d'opinion. Si vous partez directement sur le mot démocratie, les gens sont déjà braqués. Parce qu'ils pensent que la démocratie, ce sont les élections. La démocratie, c'est quelque chose d'importé. Mais quand vous revenez sur les principes, vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne des décisions sans vous ? Ils disent non. Quand vous leur demandez, est-ce qu'on peut gérer l'argent du pays comme on veut ? Est-ce que vous êtes prêt qu'on nomme des gens comme on veut ? Non, ils ne sont pas d'accord. Donc, quand on ramène les principes démocratiques, les gens sont d'accord avec les principes démocratiques. C'est pourquoi l'enquête Afrobaromètre, que ce soit au Burkina, que ce soit en Afrique, plus de la moitié, toujours autour de 60% des populations, préfèrent les régimes démocratiques. Mais quand on reste sur la définition que tout le monde a, ça veut dire que c'est simplement les élections, c'est le laxisme, les gens rejettent cette démocratie-là. Donc c'est quand même aussi pour les intellectuels ou les défenseurs également de la démocratie de voir effectivement ce cri de cœur de ces populations-là qui attendent à mieux comprendre et qui attendent à ce que la démocratie soit appliquée. Voilà, donc les moments de transition devraient être quand même des moments pour corriger ces erreurs de la démocratie. Malheureusement, je peux vous dire que nous avons déjà une année de transition, mais il n'y a pas des réformes sur les élections. Est-ce qu'on en parle sur le financement des campagnes ? Est-ce qu'aujourd'hui, sur le nombre des partis politiques, est-ce qu'on en discute ? Est-ce qu'on discute sur le suffrage ? Donc, les questions qui devaient nous permettre de corriger ces tares-là et repartir sur un nouveau monde-là, on ne le fait pas. Parce qu'on préfère, j'ai comme l'impression, qu'on préfère garder cette démocratie malade-là pour pouvoir justifier l'apparition d'autres acteurs sur le terrain, en fait. Donc, le problème n'est pas la démocratie, mais la pratique. Mais nous ne devons pas aussi rester sur ça et puis ne pas comprendre ceux-là qui veulent être aux affaires, qui veulent aussi être impliqués. Parce qu'on a vu que nos actions de redevabilité qu'on a au niveau des communes, la manière de participer des citoyens, ce n'est pas réel. Mais on peut le voir aussi dans un régime. Ce qu'on a accusé, ce dont on accuse la démocratie, on le vit aujourd'hui. Quand vous voyez des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui se mettent en association, est-ce que moi, en tant que citoyen, j'ai été consulté ? Non. Quand on voit, par exemple, des nominations des acteurs sans passer par un palais texte. Je vous cite un beau texte que je lisais avant de venir. Ça commençait en 2008 et en 2013, où on dit par exemple les chefs, les DG des sociétés d'État doivent être soumis à des concours. Donc, ça veut dire qu'on veut la crème. Mais aujourd'hui, on nomme des gens, ce qu'on n'a pas fait en démocratie. Donc, il y a tout ce souci-là qu'il faut qu'on travaille à mieux corriger que d'accuser tel ou tel régime.
Est-ce que le fait, par exemple, de ne pas consulter le peuple, docteur Vokouma, est un problème, comment dirais-je, pour ce qui concerne justement la démocratie? On dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais il y a des moments où bon, on a l'impression que ce peuple-là n'est pas assez consulté ou pas du tout.
Bien sûr, c'est-à-dire un problème de responsabilisation du peuple sur lequel nous devons sérieusement travailler.
Et qui doit le faire?
Bon, c'est tout le monde, parce que même les partis politiques avaient ce rôle. Mais ils ont pratiquement travaillé à confiner le peuple au rôle de votant et qui s'est limité à ça. D'accord. Sinon, ils ont un rôle d'éduquer la population. Parce que c'est l'éducation à la démocratie qui va permettre au peuple de savoir jouer son rôle en tout temps, en tout lieu.
D'accord. On va prendre la réaction de Aziz Diallo par rapport à cet aspect et puis on va revenir sur cet aspect. Alors, Aziz Diallo, elle parle du rôle des politiques.
Oui, c'est une responsabilité qui est partagée. Mais les institutions sont organisées de manière à ce qu'il y ait cette consultation. Quand vous avez, au niveau communal, vous avez des conseils municipaux, des mairies, au niveau national, vous avez des assemblées, ce sont des principes qui permettent quand même que, quand des décisions sont prises, quand ces organes-là sont consultés, on peut dire que oui, le peuple a été consulté, parce que ce sont des élus qui sont censés représenter le peuple. Mais bon, là, nous sommes dans une période d'exception parce que vous n'avez pas de personnes élues. Mais nous avons quand même une assemblée de transition. Et quand même, les textes prévoient que certaines décisions, au moment où elles sont prises, qu'une structure comme l'assemblée soit consultée, même si c'est une assemblée de transition. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus rien. On voit que des choses sont faites et dites... vraiment à volo, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a eu comme mécanisme de consultation. Nous sommes dans un régime d'exception, il faut le dire ainsi. Donc c'est la force des armes et donc les gens sont investis de pouvoir et ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, on n'est pas dans une démocratie. Notre démocratie elle est entre parenthèses pour l'instant.
Et quel est le réel rôle que jouent ou que doivent jouer les politiques dans un État dit démocratique?
Vous savez, les politiques, comme le disait Dr Vokouma, ont quand même une responsabilité en termes d'éducation, de formation des populations. Je vous donne un exemple. Dans les financements que l'État octroie, les financements hors campagne pour les partis politiques, il y a un pourcentage qui est censé aller à la formation. Parce que chaque Absolument. Parti politique a une responsabilité de former ses militants. Et ça, c'est des choses pour lesquelles vous avez même des rapports qui sont soumis à la Cour des comptes. Mais demandez-moi combien de partis le font, combien de partis parmi ceux qui reçoivent les financements, parce qu'il faut dire que ce n'est pas tous les partis qui reçoivent les financements, mais combien vraiment le font, ça laisse à désirer. Elles ont cette responsabilité, mais elles n'ont pas forcément les moyens de mettre en œuvre aussi cette responsabilité. Vous allez demander aujourd'hui à un parti politique d'aller sensibiliser, d'organiser ses militants. Face à cette pléthore des partis politiques que vous avez aussi cette insuffisance de moyens des partis pour le faire. Donc c'est une responsabilité qui est partagée. Mais l'État ne doit pas aussi s'asseoir et dire que c'est la responsabilité des partis politiques d'aller éduquer les populations ou les former. À partir du moment où on fait le choix de la démocratie, on a cette responsabilité quand même au niveau institutionnel de s'assurer que cette démocratie-là, elle est connue, elle est sue de tous. Et ce n'est pas uniquement la responsabilité des partis politiques dans ce cas.
On va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette émission. Docteur Jocelyne Vokouma.
Il y a débat.
Cette semaine, Studio Yafa pose le débat sur l'état de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte de crise politique, nous recevons Jocelyne Vokouma, anthropologue, maître de recherche à l'Institut des sciences des sociétés au CNRST. Nous avons également Aziz Diallo, gestionnaire de programme, ancien député maire de la ville de Douri, Simon-Pierre Douamba, chargé de suivi évaluation au CGD. Votre réaction à présent,
oui.
Docteur Vokouma?
En fait, je voudrais revenir sur la question de l'éducation du peuple à la démocratie pour me permettre de partager deux expériences vécues à l'extérieur dans d'autres pays. il y a le volet de la responsabilité qui incombe aux partis politiques. Et M. Diallo fait bien de remettre en cause la poursuite de l'État qui doit aussi jouer sa partition. Et en la matière, au niveau du Ghana, ils ont la Commission nationale pour l'éducation civique qui est implantée jusqu'au niveau district, donc au niveau local, et qui forme les instruits et non-instruits, les alphabets. La formation à l'éducation civique touche tout le monde. Et c'est une institution de la République où lorsque le président de cette institution est nommé, c'est à vie. Donc, elle participe plutôt à l'éducation civique de la population. On peut parler comme ça. Au niveau de l'Allemagne, j'ai vu aussi ce qu'on appelle l'Académie pour la formation politique. Et là-bas, c'est géré par des anciens chercheurs. Et le rôle de cette académie, c'est d'éveiller la conscience de la population pour que lorsqu'un choix doit se faire, que chacun soit bien informé afin de savoir prendre la bonne décision. Ces mécanismes nous manquent en fait. De telle sorte que, du fait que le peuple n'est pas suffisamment encadré pour être éclairé, il est pratiquement laissé à lui-même. Et si cela n'est pas fait, au-delà des militaires, c'est le peuple même qui sera un problème pour la démocratie du fait qu'il ne comprend pas vraiment, parce que même dans le fonctionnement démocratique, il y a des contradictions qu'il faut pouvoir assumer. Mais si le peuple n'est pas éduqué à ces aspects-là, c'est compliqué. Par exemple, quand on dit le pouvoir du peuple par le peuple, Rousseau même a fini par reconnaître qu'il est contraire à l'ordre naturel des choses, que le grand nombre gouverne pendant que le petit nombre s'occupe, va qu'à ses occupations.
D'accord.
C'est dire qu'il faut pouvoir expliquer, quand on dit même par le peuple et pour le peuple, il faut expliquer ce contenu. Mais ça ne veut pas dire... Donc, il y a la représentation par les députés, comme il a dit, par les assemblées locales, les maires, mais le peuple lui-même doit être outillé par des capacités de connaissance pour savoir interférer, décider et participer.
Est-ce que l'éducation, justement, est l'unique solution et comment, de façon pratique, c'est vrai qu'elle a évoqué certains aspects, comment de façon pratique parvenir à cette éducation et permettre à cette population de pouvoir avoir un regard pointu et très accentué sur ces notions-là?
Oui, comme je disais, le peuple ne refute pas la démocratie en fait. Ce n'est pas également pour le peuple non éduqué. Le problème se trouve même au niveau des peuples éduqués qui utilisent et qui manipulent les notions de la démocratie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui ne votent pas, qui boycottent même les votes et qui se plaignent de la qualité des hommes politiques qu'on a. Vous avez aujourd'hui des hommes, des intellectuels qui suivent des partis politiques, soit pour des raisons de poste, soit pour des raisons économiques. Donc ce sont ces personnes-là qui, en retour, empoisonnent ceux-là qui ne comprennent pas le système. Sinon, si vous prenez tous les points de la démocratie, que ce soit des gens qui sont allés à l'école ou des gens qui ne sont pas allés à l'école, ils comprennent très bien que pour que la société marche, il faut de la transparence. Pour que la société marche, il faut de la participation. Voilà, pour que la société marche, il faut que les responsables qui doivent gérer puissent être assumer la pleine responsabilité de leurs actions. Toutefois, il faudra quand même qu'au niveau de l'État, on puisse mettre des mécanismes pour renforcer la citoyenneté, voilà, et amener les citoyens à aimer l'État-nation, en fait. Parce que tout ce problème pose parce qu'il n'y a pas un sentiment d'attachement entre les citoyens et les institutions. Si les gens ne se reconnaissent pas dans la justice moderne qu'on a, ils vont rejeter, à travers ça, ils rejettent la démocratie. Si les gens voient que les élections finissent par diviser au lieu de réunir les gens vont rejeter la démocratie. C'est à nous de nous asseoir, voir tous ces mots-là et apporter des solutions. Et les transitions, comme je l'ai dit et je répète, ce sont des fenêtres d'opportunité pour corriger. Le cas du Mali, par exemple, il y a eu beaucoup de communication à travers « il nous faut une démocratie propre à l'Afrique, il nous faut une démocratie qui respecte nos valeurs endogènes ». Mais la nouvelle constitution du Mali, il n'y a rien d'endogène, il n'y a rien de nouveau. Et à côté de ça, les gens ont eu un débat sur des questions de laïcité qui est encore une question importée. Puisqu'on se bat autour de religions importées, où est-ce qu'il se trouve l'Afrique à ce côté-là?
toujours les coups d'État. Par exemple, vous allez voir que la nouvelle constitution du Mali trouve que les coups d'État, c'est un crime contre l'État. Pendant ce temps, c'est comme s'il y a une campagne pour que les pays qui n'ont pas encore goûté au coup d'État puissent goûter. Donc, au fond, on est faux dans ce qu'on fait, en fait. On veut utiliser les coups d'État comme un mode pour accéder au pouvoir. Une fois qu'on arrive, on verrou. D'autres personnes ne peuvent pas utiliser ce moyen-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pour accéder au pouvoir, faut-il repartir vers les élections ? Oui, si c'est ça, nous sommes en démocratie. Si on doit rester dans les coups d'État, on ne doit pas empêcher d'autres personnes d'avoir ces idées. Pourtant, on ne peut pas aussi passer tout le temps à faire des coups d'État. Où est-ce qu'on va mettre le développement ? Vous voyez aujourd'hui que le développement s'est carrément mis sous veille pour qu'on s'occupe des questions de coups d'État, des questions de sécurité.
Aziz Diallo, il a parlé d'élections. Est-ce que souvent le mot de désignation des dirigeants n'est pas aussi un problème ? On se demande si ceux qui remportent les élections sont forcément ces personnes qui ont les excellentes idées.
Bon, vous savez, tout à l'heure j'ai parlé de problème d'enracinement de la démocratie. Et le plus gros problème, à mon avis, c'est l'analphabétisme, le manque d'éducation des populations. Et ça, c'est incompatible avec la démocratie, si je peux dire. Ce que vous avez, c'est que vous avez des populations dont vous avez des politiciens, malheureusement, qui exploitent la vulnérabilité des populations et qui le font très bien, surtout pendant les périodes électorales. Donc, si quelqu'un n'est pas... Vous avez des populations qui sont analphabètes, qui ne sont pas majoritairement et qui ne connaissent pas grand-chose de la démocratie. Et donc, quand vous êtes un peu vulnérable à tout ce que vous subissez comme pression ou comme promesse, ou même tout ce que vous avez comme intimidation dans les heures qui précèdent un vote. Donc, on n'est plus dans un système où les populations sont en mesure d'écouter ce que le politique a à dire, d'apprécier ce qu'il a proposé et librement d'aller faire un choix. Ça, c'est ce que la démocratie demande. Et nous devons pouvoir travailler à arriver à cela. Nous devons, à travers l'éducation et aussi les textes que nous devons mettre en œuvre, ramener le vrai débat démocratique au moment des élections. Ça se passe dans beaucoup d'autres pays. C'est un lieu par excellence de débat, de propositions et d'évaluation de la vie de la collectivité ou du pays.
Et qu'est-ce qu'on doit mettre justement dans ce vrai débat dont vous parlez ?
Il faut d'abord éduquer les populations, les éduquer davantage pour qu'elles sachent ce que c'est que la démocratie et quand elles vont voter, quelles sont les responsabilités qu'elles prennent quand elles décident d'aller dans l'urne et de voter. Et aussi qu'elles fassent le lien entre ce vote qu'elles effectuent et les problèmes qu'elles vivent au quotidien et les solutions et ce qu'elles souhaitent elles-mêmes pour leur pays. Il faut qu'elles comprennent que cet acte-là, aller dans l'urne et voter, c'est tout ça qui regroupe dans cela, qui regroupe, c'est toutes ces ambitions, toutes ces difficultés, c'est tout l'espoir que nous avons pour notre pays qui doit influencer les élections à ce moment. Donc il faut que les populations puissent apprécier celui qui veut être conseiller municipal, celui qui veut être député, celui qui veut être chef de l'État, pouvoir apprécier et faire la différence entre celui qui est venu pour vendre des illusions juste pour se faire élire et celui qui a un réel programme de société. Et le gros handicap aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation que les populations ont et leur exposition à ces principes de la démocratie.
Oui, docteur Jocelyne Vokouma.
Revenant à la démocratie, en tout cas, il y a trois points importants qui me tiennent à cœur. C'est le fait qu'en Afrique, le peuple est très éloigné du pouvoir. Je vais m'expliquer. Il y a la nécessité de contextualiser cette démocratie. Et parlant de la transparence, qui est le dernier point, vous allez voir que ce besoin d'éduquer est là, afin que le peuple comprenne comment les choses fonctionnent. Et en 2015, je crois, je ne sais pas si la chanson date de 2015, c'est celui qui a chanté « Gam, gam, patron, les gam, tonnier ». Voilà, c'est un message important, qu'on est en train de comprendre les choses. C'est de la transparence qu'il a chanté en réalité. Et donc, ces supports artistiques peuvent être utilisés pour parler au peuple. Quand on dit l'éduquer, ce n'est pas forcément l'amener dans un amphithéâtre ou bien dans une salle de classe. Mais trouver les moyens les plus élémentaires pour communiquer. Le gam-gam, quand on les gammes là, c'est qu'on voit clair, mais il y a une prise de conscience qui l'explique. Mais c'est un travail qui doit être fait.
Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette communication ? Parce que peut-être la personne qui va vouloir communiquer peut le faire en sa faveur.
Vous avez déjà assisté à des séances de redevabilité et présenté par des maires, quand ils finissent, c'est comme un soulagement. Parce que ça devient comme un exercice. Alors que ça doit être dans l'habitude de pouvoir rendre compte. C'est culturel. Donc, je touche maintenant à la question de la contextualisation de la démocratie qui voudrait qu'on fasse un travail d'ancrage forcément. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, celui qui a aidé le président à être élu, même s'il est du secteur privé, le président peut le nommer ambassadeur tout le temps qu'il est président. Ça, c'est ce dont ils ont convenu. C'est pourquoi la nécessité de ce contrat social-là, tout commence là. À tout moment, nous sommes prêts à dire, la Constitution a dit, qui est vraiment cordialement ancré dans la... qui porte cette Constitution vraiment dans son cœur, au-delà des citations, parce que nous ne l'avons pas fabriqué nous-mêmes. Vous allez, en Allemagne, par exemple, j'ai assisté à une cérémonie où, le ministre des Affaires étrangères était en train de faire son discours. Il a commencé en anglais. À un moment donné, il dit, « Ah, je vais changer, je vais parler en allemand parce que ceux qui m'ont élu parlent allemand. » Pourquoi le peuple ne va pas se sentir proche de ce dernier? Je vous respecte parce que je suis en train de parler, mais apparemment, je ne m'adresse pas à vous parce que vous ne comprenez pas la langue que je suis en train, dans laquelle je me... Je l'ai respecté, je me suis senti... j'ai dit, mais voilà une manière de jouer le jeu de la démocratie. Parlant de pouvoir éloigné du peuple, aux États-Unis, à la Maison Blanche, vous pouvez passer devant la Maison Blanche freely, librement. Il n'y a pas une barrière. Donc le fait que les institutions, même dans leur architecture, sont éloignées, ou bien les barrières qu'on met chaque fois parce qu'on ne peut pas passer, les Champs-Élysées, les ministres sont logés là-bas, mais c'est le lieu de la promenade des visiteurs. On vous montre, voilà, les logements des ministres. Mais pourquoi chaque fois en Afrique, il faut barricader? Vous avez affaire à l'autorité que quand, ou bien quand il cherche des voies, alors que il doit être accessible. Aujourd'hui, vous avez les journées du patrimoine qui permet aux citoyens lambda français de rentrer à l'Élysée, de s'asseoir même sur la chaise du président, même si dans notre jargon, on dit qu'il va faire le malin. Mais ils ont fait ça pour montrer là où l'argent, les contributions vont, etc. Donc, nous n'avons pas développé ces petites choses. Tout ça, là, rentre et passe par l'éducation du peuple. La proximité et du peuple et vis-à-vis du pouvoir. Et vous voyez, les questions sécuritaires. Et j'ai travaillé sur le terrain, sur les questions de gouvernance, et nous avons touché la question de l'environnement sécuritaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au chef lieu de région, vous allez voir que le dispositif existe pour protéger tout le monde. Mais dès que vous commencez à descendre vers le village, il n'y a plus de dispositif sécuritaire. Mais là, c'est une faille des maires que la question de Corleone aurait pu être intégrée à la gouvernance pour que là où l'État n'avait pas les moyens pour mettre des militaires et des véhicules blindés, qu'on fasse appel à cette connexion socio-culturelle.
D'accord.
Pour l'adapter à la question sécuritaire.
D'accord. Simon-Pierre Douamba, allez-y.
Oui, l'autre question, c'est que ce soit les acteurs de la société civile, y compris les journalistes, là, nous sommes restés dans l'option que le changement viendra du haut, en fait. Donc, toutes nos actions, nos critiques, c'est vers les dirigeants, en fait, pour qu'ils puissent changer. Il faut qu'on arrive à renverser pour que le changement vienne par le bas. Si chacun d'entre nous repart dans son village, repart dans son milieu, pour éduquer les citoyens à faire le bon choix. Voilà, avant que les politiciens n'arrivent, par exemple, au village ou d'autres acteurs pour duper les parents, si chacun repart pour dire hey, « papa et maman, avant de voter, voilà les enjeux », on va pouvoir transformer les choses. Mais en lieu et place, nous passons notre discours à critiquer ceux qui sont là et ceux qui gèrent, sans voir notre responsabilité. Et même la responsabilité du peuple. Parce que chaque fois quand on parle, c'est comme si nous avons un peuple ignorant, un peuple qui est manipulé par d'autres acteurs. Mais il peut arriver que le peuple lui-même soit l'acteur qui amène l'homme politique à faire de la corruption. Parce que quand vous observez notre société, même sans parler aujourd'hui de l'action politique, si moi j'arrive avec des conditions économiques au village, je n'ai pas le même respect que celui-là qui n'a pas, qui est sur son vélo. Donc ce même peuple-là qui crie a un comportement favorable. Donc ça fait que ça devient comme du troc. Voilà le peuple qui veut de l'argent. Et voilà l'homme politique qui veut des voix. Donc, par fini, on se retrouve dans un tohu-bohu où on ne pourra pas trouver cette solution. Donc, pour moi, il faut qu'on aille sur les deux fronts. Pendant qu'on fait des textes pour permettre quand même que ceux qui vont se porter
comme candidats, soit des personnes et quand même qui ont des projets, il faut aussi qu'on travaille pour que les citoyens se rendent compte que les 1000 francs ou cette manipulation qu'on a là nous engage pour des années. Et voilà. Et que le peuple aussi puisse comprendre que les principes, l'exigence qu'on a pour la démocratie, on doit avoir la même exigence pour les questions quand il y a coup d'État. Quand je revenais sur les questions de la participation, on dira par exemple à un député élu, il faut aller, tu as voté des lois, il faut nous faire nos redevabilités. Mais aujourd'hui, par exemple, dans nos assemblées, là, ce sont des gens aussi, certains, il y a certains qui ont été nommés par les gouvernants, mais il y a d'autres qui ont été, bon, en griffe, élus, hein, choisis par la communauté. Et moi, je n'ai pas encore connaissance, par exemple, que le représentant de ma région nous a convoqués pour nous dire, voilà, à l'Assemblée, ce que je dois voter. C'est la même chose, par exemple, pour le Conseil national de la jeunesse. Il y a des gens qui sont à l'Assemblée au nom des jeunes, mais ces personnes ne sont pas revenues vers les jeunes pour dire, nous allons voter telle loi. Donc, au fond, tout le problème qu'on a là, ce n'est pas le problème du régime, en fait, mais c'est la capacité des citoyens à connaître la manipulation des acteurs. Voilà. Donc, c'est
Diallo,
là la formation qu'il
Aziz
faut
Diallo,
mettre l'accent.
Je rappelle que vous êtes ancien maire, ancien député maire, la question de redevabilité revient. Vous, lorsque vous étiez, je dirais, aux affaires, comment, est-ce que c'était un exercice facile ou compliqué, comme peut-être certains...
Moi, c'est un exercice que j'appréciais beaucoup. Je le faisais très souvent. Avec l'équipe avec laquelle je dirigeais la mairie, nous avions régulièrement des rencontres à l'intérieur des villages comme dans la ville. Nous avons même installé une radio municipale qui couvrait toutes les sessions du conseil municipal. Et immédiatement après la session du conseil municipal, je me déplaçais moi-même à la radio pour aller rendre compte de la session. Et on avait des émissions aussi interactives au niveau de la radio. On en avait régulièrement. Par année, on en organisait au moins 3-4, parfois sur des thématiques précises, mais parfois sur des sujets d'ordre général. Il faut apprécier. Moi, c'est dans ma nature. J'apprécie le contact, les discussions, parce que ça nous permet de nous enrichir beaucoup. Je vous dirai comment il y a beaucoup de projets que nous avons réalisés dans la commune qui sont venus de ces interactions avec les populations. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on est en session du conseil municipal, le conseil municipal à Dori, c'est 172 conseillers. Donc, malheureusement, le genre n'était pas très respecté. Ça, j'ai même honte de le dire, mais on n'avait que 5 femmes dans les 172. Et on a remarqué à un moment donné que les femmes, quand elles venaient, elles se mettaient à l'arrière et se mettaient toutes ensemble. Et donc, une fois, je les ai interpellées en plein conseil municipal. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes toutes assises ensemble et toutes derrière là-bas? Et donc, quand on est arrivé dans les divers, j'ai exigé qu'elles prennent toute la parole. Et chaque fois qu'elles prenaient la parole, elles disaient, ah non, que le grand conseiller, parce que souvent elles sont deuxième conseiller dans le village, donc elles se réfèrent au premier conseiller comme le grand conseiller. Non, le grand conseiller a déjà tout dit. Le grand conseiller a tout dit. Je dis, bon, dorénavant, vous les cinq là, voilà le banc, en première rangée, c'est là que vous asseyez, et dorénavant, vous allez parler avant les autres. Et la première fois que nous l'avons fait, il y a des projets que j'ai en tête que nous avons initiés grâce aux contributions de ces femmes-là. C'est le projet dans le domaine de la maraîchiculture et de la transformation des produits locaux. Et ça, c'est venu rien que parce qu'on leur a donné cette parole. Mais donc, si vous ne vous ouvrez pas, mais vous ne pouvez pas vous-même avoir le monopole de l'intelligence ou la connaissance. Dori, c'est 78 villages. Je ne peux pas seul dire que j'ai cette maîtrise-là. Donc, personnellement, j'appréciais aller à ce contact. Je me suis beaucoup enrichi. J'ai beaucoup appris à connaître la commune davantage. Et je connais beaucoup d'autres collègues maires aussi qui le faisaient très souvent. On nous fait facilement un procès. Hein. Voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'est des clichés. Mais dans la pratique, moi, j'ai vu beaucoup de maires dans des situations très difficiles, qui avaient souvent même des difficultés, parce que les maires n'ont pas toujours les moyens aussi de se lever et aller dans tous les villages de leur commune. Mais j'en ai vu qui ont cravaché, qui ont quand même fait tous les efforts pour garder ce contact, et surtout ces exercices de redevabilité qui le faisaient très souvent. Et nous avons vu ça ces dernières années. Ça, très souvent, c'était même télévisé. Vous avez des maires qui organisaient des séances de redevabilité. Donc, il y a des vieux clichés qui existent, mais je pense que récemment, quand même, nous avons eu une classe politique qui est quand même un peu plus responsable. Et certains principes, donc cette question de redevabilité, elle était quand même mieux appliquée ces 7-8 dernières années. Ce n'est pas pour me jeter à moi seul les lauriers, mais elle était mieux appliquée, mieux mise en œuvre que les années précédentes. C'est mon point de vue.
Et nous allons terminer sur ce dernier point, sur les réformes, notamment pour améliorer la démocratie dans sa forme actuelle. Docteur Jocelyne Vokouma.
Il faut la repenser.
Comment ?
La repenser et s'accorder sur le contenu qu'on veut y mettre. Parce qu'en fonction du contexte, le contenu n'est jamais le même. Même si au niveau international, on célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la démocratie, c'est que tout le monde est d'accord que c'est nécessaire que partout il y ait de la démocratie. Maintenant, de façon spécifique, comment cette démocratie est vécue ? Mais c'est à chaque contexte, c'est dans chaque contexte que les gouvernants prennent les dispositions nécessaires pour renouveler ce contrat qui encadre cette démocratie.
D'accord. Simon-Pierre Domba.
Oui, il faut revenir par exemple sur les réformes électorales parce que il y a beaucoup de griefs contre notre système. Mais c'est une élection qui coûte très cher, c'est une élection qui exclut des citoyens, c'est une élection également qui crée beaucoup de problèmes en fait. Comment on travaille de telle sorte que l'élection ne soit plus un mot de division, mais un mot de rapprochement. Le deuxième élément, c'est comment on renforce le contrat social entre l'État et les citoyens, parce que c'est l'État qui met en œuvre la démocratie, en fait. Donc, le citoyen se sentira rapproché de l'État par la satisfaction des services sociaux de base. Voilà, que vous parlez de démocratie, vous parlez de révolution, vous parlez d'autres formes, le citoyen attend la satisfaction, il a besoin d'eau, il a besoin de santé. Donc, il faut résoudre ces questions-là pour, en même temps, parler de démocratie, en fait. Voilà, donc je pense qu'il faut ces réformes-là. Et l'autre point également, c'est la lutte contre la corruption. Voilà, la lutte contre la corruption, parce que notre rapport avec le bien commun est un problème. Et sur cette question aussi, on est tellement focalisé sur les dirigeants et qu'on ne voit pas peut-être avec les sociologues, les chercheurs, pour comprendre. Parce que même au niveau très bas, vous verrez que si on affecte, si ce n'est pas ma chèvre, je la laisse mourir de soif, en fait. Donc, il y a un problème de fond, notre rapport avec le bien commun, notre rapport avec le bien d'autrui, en fait. Donc, je pense que l'ensemble de ces réformes-là, et la sincérité aussi des acteurs, voilà, il ne faudra pas que la démocratie soit des moyens juste pour accéder au pouvoir, et après, basta. C'est toute la difficulté. Voilà, on est voté, on finit de voter, on attend les 5 ans autres. Donc, un mécanisme, par exemple, pour engager la responsabilité des dirigeants. Si, par exemple, si c'est par l'Assemblée nationale ou autre, si un président n'arrive pas à atteindre un certain seuil ou ne respecte pas ses engagements, que par l'Assemblée, on puisse le déposer en attendant que les militaires prennent les armes achetées par le peuple pour venir encore se diviser entre eux. Parce que chaque coup d'État crée des divisions au sein de l'armée.
Aziz Diallo, on termine avec vous sur cet aspect des réformes.
Oui, les réformes sont très importantes. Tout à l'heure, j'ai parlé des questions de limitation et de transparence sur les dépenses électorales. Tout à l'heure, M. Douamba aussi a parlé de la limitation du nombre de partis politiques. Le Burkina, notre pays, n'a pas besoin de 200 partis politiques. Ça n'a aucun sens. Il faut limiter, il faut déjà rendre plus difficile la création des partis politiques. Dans certains pays, vous avez le système de parrainage. Vous devez avoir un certain nombre de parrainages avant de créer. Et quand vous allez réduire ce nombre de partis politiques, exigez aussi que ces partis soient nationaux. Ça veut dire que, par exemple, on peut dire dans les textes que pour un parti et un récépissé, il faut qu'il ait des sièges dans 4 régions sur 13 ou 5 régions sur 13, ainsi de suite. Donc, vous allez avoir des partis nationaux et vous allez les rappeler leurs obligations et surtout aussi les accompagner pour qu'ils puissent remplir ces obligations-là. Là, on va avoir un peuple qui est beaucoup plus sensible aux questions de démocratie, aux questions de gouvernance politique. Et là, c'est cette éducation qui va nous permettre de grandir en tant que nation dans la démocratie. Ces réformes sont très importantes. Sans ces réformes, on va toujours faire la même chose. Sans ces réformes, il y aura des élections naturellement à la fin de la transition, même s'il y en a qui ne veulent plus en entendre parler. Il va y avoir des élections. Et si ces réformes ne sont pas mises en œuvre, c'est la même chose qui va se passer encore. Celui qui va dépenser le plus d'argent sera élu. Il va faire ce qu'il veut. Et puis après un beau jour encore, les militaires vont se servir de ce prétexte pour interrompre le cours des choses. Donc c'est important de faire ces réformes pour enraciner davantage la démocratie dans notre pays.
Et nous sommes au terme de cette émission consacrée à la démocratie dans un contexte marqué par les coups d'État dans la sous-région ouest africaine. Pour ce débat sur la démocratie en Afrique de l'Ouest, nous avons reçu le docteur Jocelyne Vokouma, anthropologue, maître de recherche à l'Institut des sciences des sociétés au Centre national de la recherche scientifique et technologique. Aziz Diallo, gestionnaire de projet, ancien député maire de la ville de Dori dans la région du Sahel.
Et notre troisième invité était Simon Pierre Douamba, chargé de suivi et évaluation au Centre pour la gouvernance démocratique CGD. À très bientôt pour un autre débat. En attendant, prenez soin de vous et des autres.